c'est la boîte à musique.
Bonjour, c'est Anne sur Altitude FM. Venez avec moi à la découverte d'un compositeur de l'époque romantique. Aujourd'hui, je vais vous parler de Dvorak. Connaissez-vous cet air ? On l'entend dans des génériques, des publicités, des films. Or, cet air célèbre est un extrait du final de la célèbre Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Antonín Dvorak est né dans un petit village de Bohême, en pays tchèque, pas encore libéré de l'Empire austro-hongrois. Dans ce contexte, sa carrière est marquée par le nationalisme naissant, pour faire advenir la nation tchèque. Antonín était destiné à la carrière de boucher, tout comme son père, qui tenait aussi une auberge avec sa mère. Mais il est très tôt attiré par la musique, lorsqu'il entend son père jouer de la sitar et que son instituteur l'initie au chant et au violon. À l'âge de 13 ans, lorsqu'il part à la ville pour faire son apprentissage de boucher, il rencontre l'organiste de l'église, qui lui enseigne son instrument, bien sûr, mais aussi le piano, l'alto et même la composition. Il n'est pas facile alors de convaincre ses parents de le laisser entrer à l'école d'orgue de Prague, où la domination des Habsbourg, qui dirige l'Autriche-Hongrie, est de moins en moins supportée. De nombreux militants dans cette ville se battent pour la culture et la langue tchèque. Le nationalisme tchèque, en effet, est particulier. Il est basé surtout sur la reconnaissance culturelle du peuple tchèque. L'empereur François-Joseph semble donner certains gages aux Tchèques en leur donnant une nouvelle constitution en 1861. Et d'ailleurs, à cette occasion, est créé un théâtre national provisoire, car la nation tchèque n'est pas encore érigée en État souverain. Mais après la défaite de l'Autriche-Hongrie face à la Prusse, en 1866, le nationalisme tchèque s'épanouit, reprend vigueur, reprend espoir. Mais c'est seulement après la guerre de 14-18, avec la défaite de l'Autriche-Hongrie, que la Tchécoslovaquie verra le jour. Et la République tchèque elle-même ne sera fondée qu'en 1993, après dissolution de la Tchécoslovaquie. Dvorak est engagé dans l'orchestre de ce théâtre, en tant qu'altiste, c'est-à-dire qu'il joue du violon alto. Et en même temps, il apprend à connaître Liszt et Wagner. Il est fasciné par le romantisme de Wagner. Et la musique novatrice de Liszt l'inspire. Mais il est pauvre. Donc pour vivre, il joue dans des orchestres de brasserie, où il s'imprègne de mélodies populaires. Peu à peu, sa réputation grandit. Des personnalités importantes lui ouvrent leur salon. Il se produit dans des petits concerts privés, où il fait entendre ses compositions. Par exemple, une cantate patriotique qui s'appelle « Les héritiers de la montagne blanche », qui relate une légende très populaire où s'exprime l'âme tchèque et la révolte contre la domination étrangère. Et c'est un de ses premiers succès publics. Nous sommes en 1873, et ses contacts avec le milieu intellectuel qui lutte pour l'identité du pays se renforcent. Le grand compositeur nationaliste tchèque Smetana crée même sa troisième symphonie, car la musique de Dvorak a toujours revendiqué une inspiration populaire. C'est un compositeur romantique, tiraillé entre la joie de la danse et la mélancolie due à la soumission de son pays. Cette dualité, on la retrouve dans sa sérénade pour cordes en mi majeur. Mais il manque cruellement de financement. Heureusement, l'État autrichien lui fournit une bourse. Mais lorsque celle-ci doit être renouvelée, il passe devant un jury. Et il se trouve que Johannes Brahms siège dans ce jury. Et c'est lui qui reconnaît le talent de Dvorak et qui donne un coup de pouce à sa carrière. Il le recommande à un éditeur pour ses danses slaves. Elles sont imprimées en 1878. Elles étaient écrites pour piano à quatre mains, puis orchestrées. Dès leur parution, elles connaissent un succès immédiat. Vous allez entendre les coups de cymbales de l'ouverture, caractéristiques d'un style qui veut restituer l'atmosphère des danses slaves. Puis des parties lyriques, mélodiques, contrastent avec des passages plus rapides et plus rythmés. Nous allons entendre la danse slave numéro 8 par la Philharmonie de Berlin, dirigée par Daniel Barenboim. « parvient à transposer les procédés du répertoire folklorique dans une musique dite classique. Il incorpore des stylisations de danse folklorique. Par exemple, on a le furian, qui est un morceau de danse enflammée. Il met le furian à la place du scherzo. Et la ballade épique slave, qu'on appelle la donka, où il y a à la fois tristesse et exaltation, eh bien, il le met à la place du mouvement lent, le largo. Et c'est cela qui force l'admiration de Brahms et lui fait gagner une réputation internationale. Il n'y a pas que les danses de son pays qui l'inspirent. Il y a aussi les chants de cigane. Il en a composé 4. Nous allons écouter le dernier, les chants que ma mère m'a appris, par Anna Trebenko. C'est le premier musicien à familiariser l'Europe avec l'école musicale de son pays à une échelle beaucoup plus large que ses contemporains. Et cela est dû à la façon d'écrire de Dvorak. Il écrit quelque chose pour tout le monde. Toutes ses œuvres sont facilement comprises par un public international. Ses premiers fans, ce sont les Anglais. À partir de 1884, l'Angleterre l'accueille régulièrement avec enthousiasme. Et la Société philharmonique de Londres lui commande sa symphonie numéro 7. Cette symphonie a des accents tragiques. C'est l'écho de son expérience de la souffrance. Car le musicien a connu de nombreux malheurs dans sa vie. Il n'a pas pu se marier avec la femme qu'il aimait, il a épousé sa sœur. Et surtout, il a perdu ses 3 premiers enfants. À la suite de ses deuils, il a composé un Stabat Mater. Il est reçu également en Russie. C'est Tchaïkovski qui l'invite, dans les années 1890. Enfin, il s'installe à Prague, avec la charge de professeur au conservatoire, tout en achevant d'écrire son requiem pour le festival de Birmingham. Mais la proposition la plus insolite qu'on lui ait faite vient des États-Unis 3 ans plus tard. Il reçoit un télégramme d'une riche mécène américaine, musicienne et mélomane, qui a entendu dire que Dvorak fait de la musique classique avec de la musique populaire. Elle lui fait la proposition de diriger le conservatoire de New York. Il va rester 3 ans aux États-Unis, où il enseigne et il compose dans la ville de New York en pleine effervescence. Il est aussi invité à diriger ses compositions à l'exposition de Chicago en 1893, qui commémorait l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique. Dans cette exposition universelle, on pouvait admirer le premier métro aérien électrique, le premier tapis roulant et l'ancêtre du projecteur, le kinétoscope d'Edison. La période dite américaine est donc un nouvel épisode de sa carrière. Elle donne lieu à la fameuse symphonie du Nouveau Monde. C'est la symphonie numéro 9. Nous allons nous arrêter sur cette symphonie, qui ne doit toutefois pas éclipser le reste de l'œuvre de Dvorak, mais qui nous fascine. Pour la créer, Dvorak a mélangé diverses sources d'inspiration. En premier lieu, Beethoven, qu'il adore. Les chants de cigane de son pays, la Bohème. Mais aussi la musique des immigrants européens arrivés aux États-Unis tout au long du XIXe siècle. Le chant des natifs d'Amérique, les Amérindiens. Et les chants des Noirs américains, qu'il fredonnait dans les plantations, les Negro Spirituals. Donc il entremêle des mélodies, où l'on reconnaît par exemple « Swing Low, Sweet Chariot » que l'un de ses élèves lui a fait découvrir. On y trouve aussi le thème du chant de Hiawatha, le grand chef indien, dont la légende a été rapportée par le poète anglais Longfellow. « La flèche et le chant » par exemple, ce poème, je vous le dis, « J'ai tiré une flèche en l'air. Elle est tombée sur le sol, je ne sais où. Elle a volé si vite que le regard n'a pas pu suivre sa course. J'ai sifflé une chanson dans l'air. Elle est retombée sur le sol, je ne sais où. Car qui aurait la vue assez perçante pour pouvoir suivre un air en vol ? Longtemps, longtemps après, j'ai retrouvé dans un chêne la flèche encore intacte. Et la chanson, du début à la fin, je l'ai retrouvée dans le cœur d'un ami. » Écoutons l'Orchestre philharmonique de Radio France, dirigé par Marzena Diakin, la célèbre chef polonaise. Thank you. Dans ce premier mouvement, vous avez peut-être reconnu l'air qui a inspiré Gainsbourg pour sa fameuse chanson « Initials BB », ode à Brigitte Bardot qui vient de le quitter. Le deuxième mouvement est très réputé, avec le beau thème au corps anglais, triste et profond, car il évoque les funérailles de la femme de Hiawatha. Le corps anglais, ce n'est pas un corps classique de la famille des cuivres, mais c'est une sorte de hautbois. On peut retrouver dans ce chant un chant d'esclave, going home, rentrer à la maison, donc la nostalgie du pays natal, de l'homme africain déporté, rejoint celle de Dvorak qui a toujours le mal du pays quand il est aux États-Unis. Le troisième mouvement, c'est un scherzo, donc rapide, joyeux, entraînant. C'est une fête indienne. Mais au début, on entend la 9e de Beethoven. Et aussi une musique de l'Europe centrale. Il semble encore s'inspirer du poème et de la légende de Hiawatha. Dans le quatrième mouvement, on entend rire la clarinette. Elle représente la voix de Minnehaha, qui signifie l'eau qui rit, épouse de Hiawatha, dont l'esprit est toujours présent. C'est un mouvement allegro con fuoco, c'est-à-dire joyeux et fougueux, plein de feu. Dans ce final, on retrouve les échos héroïques du premier mouvement, ce que vous avez entendu au tout début de l'émission. Cette symphonie a eu un immense succès dès le premier jour où elle a été jouée. C'était le 16 décembre 1893, au Carnegie Hall de New York. Le programme était formidable. Il y avait aussi le concerto pour violon de Brahms, son mentor, la musique de scène du Songe d'une nuit d'été de Mendelssohn, dont on avait parlé lors des précédentes émissions. Ce fut un triomphe, le public en liesse applaudissait entre chaque mouvement. Ça ne se fait pas. Dvorak raconte à son éditeur qu'il devait répondre en saluant de sa loge, comme s'il était un roi, ce qui le gênait un peu, car il était resté très modeste. Cette symphonie est tellement unique que Neil Armstrong en a emporté un enregistrement audio lors de sa mission Apollo 11, la première à déposer un homme sur la Lune en 1969. Je vous suggère d'écouter entièrement cette symphonie. Elle ne dure que 45 minutes et tous les mouvements sont très accessibles, bien orchestrés, avec des mélodies mémorables. Le séjour aux États-Unis de Dvorak fut très fécond. Il a aussi écrit une de ses œuvres les plus belles, le concerto pour violoncelle en si mineur, pour un ami de Wagner, violoncelliste réputé, en 1895. Vous allez entendre au départ un léger crescendo, interprété par le violoncelle, puis repris par l'orchestre. Le soliste va le développer ensuite, et la clarinette va l'enrichir. L'atmosphère est nostalgique, et l'œuvre se clôture par l'intervention vigoureuse de l'orchestre. On reconnaît bien là les traits du romantisme, tiraillés entre la tristesse et la fougue. Les dernières années de notre compositeur sont consacrées aux poèmes symphoniques et à l'opéra, les deux étant étroitement mêlés dans leur thématique. Puisque dans les poèmes symphoniques, qui sont écrits d'après les ballades populaires d'un poète tchèque nationaliste, on trouve déjà l'Ondine et la sorcière de Midi, qui figurent dans son opéra le plus célèbre, Rusalka. Cet opéra a été joué à l'Orchestre du Capitole en 2022. Rusalka, c'est une créature aquatique d'eau douce, une sorte de fée, dont l'histoire ressemble à s'y méprendre à celle de la Petite Sirène, écrite par Andersen en 1837. Il s'en est inspiré, bien sûr, mais il a mélangé cette histoire avec celle des contes et légendes des ondines de son pays, qui, elles, vivent en eau non salée, et de l'atmosphère des bords d'étang au clair de lune, qu'ont si bien sûr restitué les frères Grimm aussi. Or, vous savez, la lune, c'est un astre cher aux romantiques. C'est le symbole du rêve et de l'absolu. Nous allons entendre la prière à la lune de cette sirène d'eau douce au destin tragique, puisqu'elle a donné sa voix à une sorcière pour pouvoir avoir forme humaine et aimer son prince. Interprétée par la merveilleuse soprano française Tatiana Probst, lors du festival Un violon sur le sable à Royan. Voilà le texte en français. Petite lune si haute dans le ciel, ta lumière transperce le lointain. Tu vas de par le vaste monde, tu vas jusque chez les humains. Arrête-toi un instant, dis-moi où est mon amour. Dis-moi, lune argentée, que pour moi tu l'entoures de tes bras. Cela fait penser à la chanson de Mécano, qui adresse elle aussi une complainte à la lune. Dis-moi, lune d'argent. Cet air est repris aussi au violoncelle par Gauthier Capuçon, par exemple lors d'un concert à la Tour Eiffel avec l'Orchestre National de France. Nous allons nous quitter sur une œuvre très souvent reprise en jazz, c'est une humoresque. Les humoresques, Dvorak les a écrites à la fin de sa vie. La tonalité est enjouée au début, puis des accents lyriques apportent un contraste typique de l'œuvre de Dvorak. La mélodie se développe alors sur le mode mineur, vous le savez, ça rend un petit peu triste le mode mineur. La composition se termine sur une note mélancolique. Ainsi, ce compositeur foisonnant et frénétique a légué à la postérité un héritage musical romantique, riche, diversifié, influencé par diverses cultures musicales, qu'elles soient allemandes, tchèques, afro-américaines, amérindiennes et même françaises et italiennes. Toutes ces mélodies s'entrelacent pour donner lieu à un langage musical inédit. Dvorak est un avant-gardiste qui vagabonde hors des sentiers battus. Son langage musical est novateur. C'est le premier à familiariser l'Europe avec l'école musicale de son pays. Il est aussi capable de lyrisme, avec l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre, l'opéra Rusalka. D'ailleurs, sa villa où il a composé cette œuvre est devenue un musée appelé Villa Rusalka, que l'on peut visiter dans le village de Dvorak à Vysoka. Il est situé à 2 heures de Prague. Prague où l'œuvre a triomphé en mars 1901. Je vous donne rendez-vous sur Altitude FM tous les troisièmes jeudis du mois à 17h.